France Inter.
Bonjour à tous. Dans un instant, nous serons sur le port du Pirée en Grèce. La flamme olympique va embarquer sur le Bélem pour rejoindre Marseille. Après une journée sous tension, le blocus des étudiants pro-palestiniens de Sciences Po Paris a été levé. L'intelligence artificielle en appui de la lutte contre le cancer. Une découverte chinoise pleine d'espoir pour percer le mystère de l'organe touché en premier. Et puis on les avait adorés dans la marche de l'empereur. 99% de ces manchots sont menacés de disparition d'ici la fin du siècle. Les poussins empereurs ne résistent pas en raison de la fonte de la banquise en Antarctique. Sandy Dauphin nous dira tout.
Et à 9h10, buvons-nous une eau de qualité et à quel prix? Question posée dans On n'arrête pas l'écho à la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff, invitée d'Alexandra Ben Saïd. Ce sera juste après le journal.
France Inter. C'est l'image du jour, la flamme olympique désormais aux mains des Français. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, l'a récupérée hier au stade d'Athènes. La flamme va maintenant monter à bord du Bélem. Le 3 mai quittera le port du Pirée pour rejoindre Marseille le 8 mai. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Laurence.
Vous êtes en direct donc du port du Pirée et la flamme vient d'arriver.
Exactement, elle est passée sous nos yeux, la lanterne, cette précieuse cargaison que va embarquer le Bélem dans les prochaines secondes. C'est en effet Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris 2024, qui a cette lanterne allumée hier soir au stade panathénaïque d'Athènes et qui va la transmettre à l'équipage du Bélem qui s'est mis en randonneur pour escorter cette flamme qui va prendre la passerelle maintenant. Vous entendez peut-être quelques applaudissements derrière moi pour saluer effectivement cet événement. Depuis hier soir, vous l'avez rappelé, la flamme est entre les mains de la France et elle va donc faire une traversée historique sur ce 3 mâts qui est devant nous, accosté au port de commerce du Pirée, au sud-ouest d'Athènes, avec l'équipage, je vous le disais, professionnel qui a fait une haie d'honneur et l'équipage de jeunes, ces 16 jeunes qui n'ont jamais pris la mer, qui ont été sélectionnés partout en France pour faire cette traversée, cette odyssée historique à travers la Méditerranée jusqu'à Marseille. Tony Estanguet vient de monter sur le Bélem avec sa lanterne à la main pour la transmettre donc à l'équipage qui va devoir en prendre soin pendant ces 12 jours de traversée pour être à l'heure exacte le 8 mai devant le vieux port de Marseille.
Jérôme, vous parliez de Tony Estanguet. Il a annoncé hier d'ailleurs que ce sera le nageur Florent Manoudou qui sera le premier porteur de la flamme olympique à son arrivée dans la cité phocéenne. Merci Jérôme Val, vous étiez avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques.
Le Premier ministre s'apprête à annoncer de nouvelles mesures pour le monde agricole.
Près de 2 mois après ses 67 engagements en pleine crise agricole, Gabriel Attal se rend aujourd'hui dans la Manche. 14 points vont compléter ou s'ajouter aux mesures déjà engagées, en priorité pour les agriculteurs. Les plus en difficulté, ce que les banques classiques ne peuvent ou ne veulent plus accompagner. Ainsi, la BPI France, la banque publique d'investissement, va prendre le relais avec une enveloppe de 100 millions d'euros en tout. Les exploitants pourront demander un prêt personnel jusqu'à 75 000 euros chacun. Les étudiants ont levé hier soir le blocage de Sciences Po Paris. Les locaux historiques du 7e arrondissement avaient été investis dans la nuit de jeudi à vendredi par des militants de la cause palestinienne. Ils réclamaient de leur direction des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans la bande de Gaza et l'arrêt des partenariats avec les universités de l'État hébreu. Finalement, dans la soirée, un début d'accord a été trouvé et les manifestants qui bloquaient la rue ou ceux qui se trouvaient à l'intérieur de Sciences Po sont partis. Willy Moreau.
La soixantaine d'étudiants qui bloquaient le bâtiment sort sous les applaudissements. Un mail vient d'être envoyé. La direction accepte une assemblée d'ici jeudi prochain sur les différentes revendications.
Ce petit mail, il est énorme en fait finalement et ça leur a coûté des heures de négociation.
Tarroi, l'une des principales mobilisées.
Ce qu'on a obtenu, c'est une réunion avec au moins une partie de l'administration, les décideurs en fait. Et traiter justement nos demandes en fait.
Les jeunes dansent autour d'un immense drapeau palestinien, une effusion de joie mais une prudence également pour cet étudiant.
On n'a pas gagné, on verra quelles seront les suites des événements. Ce qu'on demande à Sciences Po, c'est qu'à la hauteur de ses moyens, elle mette en place des choses qu'elle avait mises en place par le passé sur d'autres conflits.
Des partenariats avec des universités russes ont été stoppés après la guerre en Ukraine notamment. Désormais, certains espèrent que le mouvement fera tache d'huile dans d'autres universités.
C'est l'objectif, c'est que ça fasse du bruit en France comme ça l'a fait aux États-Unis et en Irlande et en Angleterre. Il faut que ça le fasse en France aussi. Un mouvement plus homogène fait plus de bruit et aura beaucoup plus d'impact.
Un mouvement aussi politique avec une présence remarquée d'élus France Insoumise. Elle a été très appréciée par ses étudiants.
Et puis ajoutons que les pourparlers de trêve entre Israël et le Hamas sont relancés. La contre-proposition israélienne est désormais entre les mains du mouvement islamiste palestinien. Les détails ne sont pas connus, mais les deux parties s'opposent entre autres sur un cessez-le-feu permanent ou bien une trêve. Selon la presse israélienne, une vingtaine d'otages pourraient être libérés. Et ajoutons que l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 68 millions d'euros aux Palestiniens de Gaza.
Et puis Laurence, une découverte très intéressante dans la lutte contre le cancer.
On le sait, les solutions thérapeutiques dépendent en grande partie de l'origine de la première tumeur, c'est-à-dire de l'organe touché en premier. Or, pour certains cancers détectés à un stade avancé, ce point de départ est parfois impossible à identifier. Ces cancers dont l'origine reste un mystère sont appelés cancers primitifs inconnus. Ils touchent chaque année 7000 patients en France. Conséquence, pour eux, les options de traitement sont rarement optimales. Mais Victor Delande, l'intelligence artificielle pourrait permettre de retrouver ce premier organe touché. Et ce sont des chercheurs chinois qui sont à l'origine de cette découverte.
Pour ces patients dont on ne connaît pas l'origine des métastases, les médecins préconisent des chimiothérapies à large spectre pour essayer de cibler le maximum d'origine possible. Mais ces thérapies un peu à l'aveugle fonctionnent très mal. Quelques mois de survie à peine pour ces malades. Les chercheurs chinois ont donc utilisé l'intelligence artificielle pour étudier des prélèvements liquides des patients. Sarah Watson, oncologue médicale et chercheuse à l'Institut Curie.
On sait qu'on a un certain nombre de patients qui se présentent avec ce qu'on appelle des épanchements du liquide dans l'organisme à certains endroits. Ça peut être dans le poumon, ça peut être dans le ventre. Et on peut prélever ce liquide et très souvent, on retrouve des cellules cancéreuses au sein de ce liquide. Donc l'idée que les chercheurs ont eue, c'est d'analyser ce liquide et de se dire peut-être que l'aspect des cellules présentes dans le liquide, ça va donner un signe de l'origine du cancer.
Une intuition payante puisque l'algorithme a réussi à identifier l'origine des cancers dans 80% des cas. Sarah Watson, elle-même créatrice d'une intelligence artificielle concurrente, pense déjà à l'étape d'après.
Ce qu'on est en train d'essayer de développer, c'est des outils qui vont être multiparamétriques. On va essayer d'apprendre à l'outil à travailler sur différents types de données, à la fois des données d'image, donc par exemple l'aspect des cellules, mais à la fois les cartes d'identité génétique pour être encore plus performant.
Avec à terme toujours la même volonté, connaître le plus tôt possible l'origine d'un cancer pour adapter le traitement avec plus de chances de réussite.
Et Victor Delande, un drame se joue dans le paradis blanc. En Antarctique, une espèce emblématique est menacée d'extinction à cause du réchauffement. Il s'agit du plus grand des manchots, le héros du documentaire La Marche de l'Empereur. 18 ans après ce film oscarisé, comment se portent ces manchots empereurs? Eh bien, pas bien du tout. D'après le dernier bilan, en 2023, la fonte record de la banquise a encore provoqué des pertes catastrophiques dans les colonies de manchots empereurs. Sandy Dauphin.
Vous avez peut-être vu ces images de jeunes manchots empereurs qui se jettent à l'eau depuis la banquise pour la première fois. Ils apprennent à nager, plonger et se nourrir. Et bien, ce rite de passage est bouleversé par le réchauffement climatique. Les poussins naissent en juillet-août pendant le rude hiver austral. Ils sont élevés sur la banquise côtière. Lorsque l'été arrive en décembre-janvier, la banquise fond, les poussins prennent le large. Sauf que désormais, la glace fond et se morcelle plus tôt dans la saison, trop tôt pour les poussins. Ils plongent alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas toujours développé leurs plumes imperméables. En 2023, baisse record de la banquise, c'est la deuxième pire année de mortalité des poussins depuis le début des observations en 2018. 14 des 66 colonies ont été affectées par la fonte précoce et les scientifiques de l'Institut polaire britannique, le British Antarctic Survey, alertent au rythme actuel des émissions de CO2, la population de manchots empereurs devrait chuter de 99% d'ici la fin du siècle.
Sandy Dauphin.
Et puis, comment les artistes du monde arabe imaginent-ils le futur ? C'est l'idée culture du week-end, Laurence.
Avec l'exposition Arabo-Futur, science-fiction et nouveaux imaginaires, c'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris. 18 artistes du Maghreb, des pays du Golfe et de la diaspora proposent une immersion dans leur vision du futur. Entre inquiétude, humour et espoir, Isabelle Pasquier.
Dans une vidéo anxiogène, une femme seule dérive dans de luxueux centres commerciaux de Doha avant de mourir sur des escalators. Ces nouveaux temples du consumérisme sont devenus des tombeaux. C'est une vision sans concession de l'artiste Sophia Almaria, originaire du Qatar, sur ces sociétés du Golfe qui sera dans le laboratoire d'un futur hyper technologique au détriment de l'humain et de l'écologie. Élodie Bouffard, commissaire de l'exposition.
C'est justement de ces inquiétudes que naissent aussi toute cette production massive. Mais il y a du coup aussi cette énergie en fait, à ne pas se laisser faire, de casser ces futurs qui sont un peu programmés. En fait, les artistes sont là justement pour les déconstruire, pour créer des nouvelles esthétiques et de l'espoir.
Avec une forte présence des artistes femmes pour ces visions du futur.
On voit aussi la portée universelle, émancipatrice aussi, que portent la fiction et la science-fiction pour ces artistes, en fait, qui s'en saisissent pour créer leur propre espace dans lequel elles déploient des utopies, des nouveaux imaginaires.
Malaise et fascination devant le terrarium d'Hicham Berada, un paysage dystopique avec des cartes mères, des coques de téléphone complètement rouillées qui commencent à être dévorées par les mousses et les fougères, les ultimes ruines de notre monde technologique.
Merci Isabelle Pasquet, c'est à l'Arabo Futur, à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 27 octobre.
C'était le journal de Laurence Thomas, il est 9h11 sur France Inter.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Céline Dacosta, 8 départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange pour les orages. Vous me faites des pièges un petit peu.
Des orages localement forts avec des chutes de grêle, de bonnes rafales de vent. Attendues surtout cet après-midi. En attendant, le ciel est déjà bien couvert avec quelques averses. À tout ça, vous rajoutez du vent fort, de la neige sur les reliefs. L'est du pays devrait rester au sec avec même quelques éclaircies. Les températures remontent cet après-midi. La moyenne ira de 13 à 23 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta, à suivre. On n'arrête pas l'écho.